Hashtag, un autre regard sur le handicap.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Hashtag, l'émission qui donne la parole à des personnes en situation de handicap afin d'évoquer leur parcours de vie, leurs projets, leurs préoccupations et leur permettre de débattre sur des thématiques diverses qui les concernent. Toujours à mes côtés, Anne Clémence, directrice de la communication au Claude Uni. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors le mois dernier, nous avions parlé de l'inclusion par le travail dans les entreprises du monde ordinaire. Aujourd'hui, place à la mobilité. La mobilité fait partie des enjeux essentiels pour les personnes vivant avec un handicap pour faciliter l'inclusion et notamment l'inclusion professionnelle, en particulier dans les zones rurales telles que la Lozère. Mais c'est aussi un enjeu essentiel qui permet de participer pleinement à la vie sociale, aller chez le médecin ou se rendre à son club de sport. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le manque de mobilité est l'un des obstacles à l'inclusion sociale. Le manque de mobilité en zone rurale, qui plus est, limite les opportunités de participation à des activités sociales et communautaires. Les personnes handicapées peuvent avoir du mal à se rendre à des événements culturels, sportifs ou associatifs. Et cela peut entraîner un isolement social et provoquer un risque d'exclusion de la vie communautaire, privant ainsi les personnes en situation de handicap de l'enrichissement et des interactions sociales indispensables au bien-être de chacun d'entre nous. Et c'est également une barrière à l'inclusion professionnelle. Les opportunités d'emploi existent dans nos régions. Nous avons pu voir dans l'émission du mois dernier que les personnes en situation de handicap pouvaient prétendre à des emplois dans le monde ordinaire. Mais la mobilité est souvent indispensable pour se rendre sur le lieu de travail ou pour effectuer des déplacements professionnels. Aujourd'hui, malgré des avancées législatives et des mesures visant à favoriser leur autonomie, de nombreux défis persistent. Alors il y a plusieurs statistiques, elles démontrent l'ampleur du défi. L'INSEE, par exemple, en France, suivant une statistique de l'INSEE, près de 12% de la population présente une limitation d'activité liée à un handicap. Et une étude sur la mobilité des personnes handicapées menée par le ministère des Transports démontre que les personnes handicapées réalisent 20% de déplacements quotidiens en moins que les personnes valides sur des courtes distances et quasiment 50% en moins sur des longues distances. Et les causes sont nombreuses pour expliquer cela, Anne. On a les causes en zone rurale, par exemple les infrastructures de transport qui sont communes, qui sont souvent moins développées qu'au milieu urbain, l'éloignement des services de santé, des commerces, des établissements publics qui rend l'accès à ces services essentiellement dépendant du transport individuel, les transports en commun parfois inadaptés, souvent peu accessibles, voire inexistants. Et de fait, la voiture reste un moyen de déplacement essentiel dans nos départements. Alors nous verrons dans les différents moyens que met en place le Claude Uni pour travailler la mobilité dans cette émission, avec l'organisation de navettes, le soutien au passage du code et du permis de conduire. Et pour en parler avec nous, eh bien, nous avons Aurélie, Wesley et Fred qui travaillent en ESAT et Marc Brûlé, moniteur éducateur, qui coordonne les projets mobilité des résidents sur les foyers d'hébergement. Alors tous les trois, vous travaillez en ESAT, mais vous n'êtes pas au même point concernant la mobilité. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Tu travailles en ESAT et tu es en train de passer le code, c'est ça?
Oui, c'est ça.
D'accord, alors tu en es à combien de fautes actuellement?
Pas mal.
Pas mal? C'est le début?
Pas mal de fautes.
D'accord. Ça commence ou ça fait un moment que tu as commencé le code ou c'est juste le début des cours?
Ça fait un moment que j'ai commencé le code, mais j'ai souvent lâché prise.
D'accord. C'est compliqué, ouais, de...
Ouais, un peu.
Voilà. Qu'est-ce qui te fait lâcher prise? C'est quoi quelle difficulté
Un peu le stress.
Ah, c'est le stress.
Ouais.
D'accord. Et oui, ça, c'est important aussi.
C'est le stress. Et puis, je crois que tu n'étais pas trop assidu, m'a dit Marc. C'est pas ça aussi, un petit peu?
Si, c'est ça.
Tu vois, ce que je comprends, ça peut être un petit peu rébarbatif d'apprendre des fois les panneaux et tout ça. Ça peut ouais. être un petit peu pénible, mais bon, il faut bien passer par là. Et toi, qu'est-ce qui te motive pour passer ton permis? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu as envie de passer ton permis? Pourquoi tu as envie d'avoir une voiture?
Ben déjà, pour avoir ma propre voiture et de vouloir aussi conduire, d'aller à droite, à gauche. Où j'aurais envie d'aller.
Tu en as besoin pour quel type de déplacement? C'est pour aller où finalement?
Pour partir en vacances, pour plein de choses. Pour, si plus tard je vais avoir un enfant, ben, j'aurai au moins la voiture.
Et là, comment tu fais actuellement sans voiture?
Eh ben, je marche ou soit ben, je vais avec mon copain.
D'accord.
Alors, tu sais qui est son copain
Ah ben non, je ne sais pas. Je n'osais pas demander.
Il était venu la semaine Ben, quand il a passé la radio aussi.
Avant voilà, moi. il était à l'émission dernière. C'est D'accord. Jordan qui, voilà. qui cherche un boulot en métallurgie à l'extérieur.
Et qui, c'était voilà. lui qui était venu.
Voilà. Okay. Il a eu son concours d'entraîneur ? Parce qu'il le passait.
Exactement.
Je crois qu'il est en train de.
Non, il l'a passé, ça y est, il l'a eu. Ouais.
Ah, il l'a eu. Ah, je rappelle. On parle d'assiduité, Marc, c'est compliqué, il faut être derrière.
Voilà, alors moi, mon rôle, donc, je travaille donc en binôme avec Christophe Manœuvrier, qui est donc le moniteur auto-école. Et donc moi, mon rôle au sein de la Collagne et plus largement au sein de
au sein du pôle foyers, du travail habitat inclusif.
Voilà, les PTHI, ouais, enfin, on va pas rentrer trop dans les cycles. Donc voilà, moi, mon rôle, c'est de coordonner, de suivre leur apprentissage et de les remobiliser. Et des fois, c'est vrai que ben, on peut avoir un petit peu de fatigue, une grosse journée de travail, c'est vrai qu'après, ben, il faut aller un petit peu en cours, donc voilà. Là, mon rôle, c'est de regarder, d'observer, donc on a un système de fiches pour...
Alors, explique depuis le début, comment ça se passe dès le départ ? Comment ça part du projet personnalisé alors, voilà, du résident ?
Donc,
comment
ça part ? Les résidents, soit viennent vers moi d'une démarche personnelle, ou après, quand on reçoit un nouveau résident au sein du foyer... On nous le présente hein, donc avec l'équipe et puis donc s'il a une aspiration personnelle et un projet sur le code donc on regarde ça donc avec le coordinateur et l'équipe pluridisciplinaire on regarde la faisabilité du projet donc après si la motivation est là ben, bien sûr ça facilite le processus après donc on voit avec certains sont sous tutelle donc là on regarde la faisabilité on va dire la participation financière donc si c'est réalisable une fois qu'on a tout ça que les différents acteurs sont OK sur le projet, on lance le processus. Et donc là, moi, mon rôle, c'est de suivre, de les assister, de les accompagner, parfois de les remobiliser, et voilà.
Et donc, de t'occuper de tous les aspects administratifs, voilà, le donc, lien avec l'auto-école adaptée, voilà, l'inscription donc, au voilà. code.
Donc dans le processus, oui, la première chose, donc, c'est, avec la situation de handicap, c'est de... La première étape, c'est la visite médicale. Parce que là, donc, ils vont voir un médecin référent de la préfecture, donc du... Donc ici c'est sur Marvejols, donc dans résidence, du domicile de résidence, parce que là s'il y a une contre-indication médicale, bien sûr, ils ne peuvent pas accéder à cette formation. Donc déjà le préalable...
Ça c'est le point de départ.
Voilà, c'est le point de départ. Ensuite, la faisabilité, le processus financier, l'accord de la tutelle s'il y a une tutelle. Et après, bien sûr, là, mon rôle, après, ben, c'est de les motiver, de les accompagner.
Et je crois qu'aussi, au préalable, il y a un petit test avec l'auto-école, voir s'il y a effectivement...
Voilà. Sur le côté physique. Après, voilà, okay. Si on a une interrogation sur les capacités, on va dire, cognitives, là, je peux m'appuyer sur l'équipe des psychologues au sein de notre foyer.
Il y a combien de refus, à peu près, par rapport aux demandes? C'est compliqué à dire, j'imagine, suivant les
années. Oui, non, après, voilà, ben, s'il est sur des capacités cognitives, après, tu sens que ça peut être sur une aptitude médicale, ça peut être la vue, ça peut être, par exemple, on en parlait récemment, le diabète, qui peut avoir une cause, donc là...
D'accord.
Voilà, ça, et après, on va dire que c'est pas... Il n'y a pas vraiment de refus, parce que toute personne peut se présenter, se former au permis de conduire. C'est après, c'est plutôt un découragement.
Oui, parce que c'est long et c'est fastidieux. Voilà,
c'est compliqué. Ben voilà, mais bon, comme on dit, nous, on a une obligation de moyens, pas forcément de résultats. On met tout. Oui. Moi, mon rôle, c'est de leur faciliter l'accession. Donc, je peux aussi faire un petit complément, moi, de mon côté. Après, ça peut être aussi sur le phénomène de groupe. C'est pas un phénomène de groupe, c'est-à-dire que. D'être en groupe, pour certaines personnes, ça peut être difficile. Donc là, on peut lier... Bon, elle évoquait le stress, Aurélie, après, il y a aussi le groupe, d'être tout seul. Donc on essaye après de faire un peu le projet en démarche individuelle, mais c'est plus compliqué.
C'est compliqué, le groupe, Aurélie ?
Oui, j'ai du mal à me concentrer sur moi-même.
D'accord. Ok, c'est adapté, par exemple, les cours de code ou pas ou
voilà, avec... alors, voilà, notre collègue, donc on fait, par rapport à une auto-école traditionnelle, il va lancer une série, quoi. Hein, et le moniteur, lui, pendant ce temps-là, va peut-être faire une heure de conduite, parce que ben, il a des considérations, il a une entreprise
oui,
à faire fonctionner.
Bien
quoi.
Sûr, oui, oui.
Là, Christophe est détaché pour ça, donc on fait du tableau blanc sur un sujet particulier. On va prendre, par exemple, aujourd'hui, la signalisation, les priorités. Donc on fait du tableau blanc parce que voilà pour eux aussi l'aspect théorique lier le théorique au concret donc voilà donc on passe par du tableau blanc on fait Ça va être quand en amont une série en fonction de, par exemple, les priorités. Donc après, on va adapter la série sur ce domaine-là. Et donc après, ils lancent ce test. Et après, ce qui est important, c'est la correction. Et donc là, ils posent toutes leurs questions. Et c'est là que notre valeur ajoutée se trouve. C'est la correction et c'est ce qui va leur permettre d'avancer. Ouais, et donc, comme je disais aussi, il faut un petit peu d'assiduité, un peu de régularité. Et derrière aussi, un petit peu de travail personnel. Il faut reprendre les questions, tout ça.
Voilà. Moi, je révise souvent chez moi. Il y a aussi mon compagnon qui m'aide à réviser.
Et oui, parce qu'il a le permis, lui. Oui. Hein,
si je voilà, me souviens bien. Et Jordan était passé par notre formation. Ça.
Voilà. Alors moi, je voudrais juste préciser que on travaille avec une auto-école adaptée. Hein, voilà. Donc, et on travaille avec l'école adaptée de l'A2LFS. L'A2LFS qui est l'association sur le territoire de Lozère qui gère, alors une association cousine du Clos du Nid, hein, puisque le docteur Jacques Blanc est président également de cette association. Et cette association gère notamment, l'A2LFS, donc gère le site de Montroda. Qui est plus connu en Lozère sous le nom du site de Montroda, mais sur le site de Montroda, il y a beaucoup de choses. Et il y a notamment le complexe euro-méditerranéen qui a un centre de formation. Et dans ce centre de formation, il y a l'auto-école adaptée. Voilà. C'est bien une auto-école adaptée. Ce n'est pas une auto-école que l'on peut voir dans les rues de Mende des auto-écoles, on va dire, du milieu ordinaire. C'est-à-dire que vraiment, le moniteur est spécifiquement formé à la prise en charge de situations en personne de handicap et à des voitures adaptées, à une méthodologie spécifique au niveau des apprentissages, puisque Marc va pouvoir en parler, mais effectivement, il peut y avoir différentes adaptations, du temps supplémentaire, des mots différents, des véhicules adaptés. Voilà. Donc, cette auto-école adaptée est totalement, comme son nom l'indique, adapté aux personnes en situation d'handicap, en termes de méthodologie, d'outils, de personnel formé, voilà.
Du coup, on reçoit des candidats d'autres départements ou pas ? J'imagine que ce n'est pas commun.
Alors, d'autres départements, non, mais comme le disait Marc tout à l'heure, cette auto-école adaptée, évidemment, elle accompagne des personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans les structures de la 2LFS, du Clos du Nid et des autres établissements médico-sociaux du département, mais également elle peut accompagner des personnes externes qui ont, par exemple, on parlait tout à l'heure de personnes étrangères qui résident sur le territoire lozérien. Tout à l'heure de cette personne-là. Voilà, oui. Elle accueille effectivement d'autres personnes. Voilà.
Marc, tu voulais réagir ?
Oui, voilà, parce que voilà, donc après, au bout de la formation, donc on présente les candidats à l'examen sur une session non francophone. Donc ce n'est pas du tout un examen au rabais, c'est un code traditionnel.
Bien sûr.
Seulement là, bien sûr, ils ont un peu plus de temps et ils peuvent demander auprès de l'inspecteur qui est présent de reformuler la question. Parce que voilà, ils peuvent très bien comprendre, comme je le disais, je vais prendre par exemple carrefour giratoire. Ben pour eux, c'est.
Bien sûr.
Voilà, si c'est le rond qui tourne, ben voilà, c'est, une fois qu'ils répondent dans le bon sens, c'est accepté. Donc voilà. Simplifier, c'est le code traditionnel. Et puis c'est vrai que sur les barrières, des fois, il y a forcément aussi des questions qui ne sont pas vraiment bien présentées pour. Quelqu'un du milieu ordinaire, on serait aussi. La confusion. Donc les termes peuvent être. Les gêner. Alors qu'ils ont manifestement la bonne réponse. Quoi. Mais on a quand même un taux de réussite assez important. Voilà.
Aurélie, tu butes sur quoi ? C'est les panneaux ? C'est les situations ? Qu'est-ce qui te... Actuellement, sur le code, qu'est-ce qui te pose problème ?
Ce que j'ai du mal à retenir, c'est les balises.
D'accord. Bon, mais au moins, tu sais sur quoi travailler, alors.
Les balises ? C'est quoi, les balises ? Je ne sais même pas ce que c'est, moi.
Les balises de virage, d'obstacles, tout ça.
D'accord.
Ouais.
Heureusement que je repasse pas mon code.
Non, ça va venir bientôt peut-être.
Et c'est ça, il y a des recyclages qui sont annoncés, mais oh là là.
Ouais, c'est ça.
Et d'ailleurs sur tout le trajet, pardon, je te coupe Aurélie, tout le trajet, j'ai eu une leçon de conduite, parce que donc c'est moi qui ai conduit tout ce petit monde pour venir jusqu'ici. Et crois-moi, ils ne m'ont rien laissé passer sur le trajet. Hein.
Bah, on lui retire le permis, Anne, ou...
Allez, on lui retire le permis.
Ah bon?
Alors, je ne sais pas si on me le retire, mais en tout cas, ça aurait été en situation d'examen, je ne l'aurais pas eu, c'est sûr.
Bon. Bonjour Wesley.
Bonjour.
Alors Wesley, je t'ai pas demandé, tu faisais quoi en ESAT, Aurélie?
Je travaille en entretien des locaux, ça fait 8 ans et demi.
D'accord,
que je suis dedans.
Ok. Wesley, tu travailles aussi en ESAT, sur à quel poste toi?
Je suis au Pôle Bois.
Au Pôle Bois, on a plein d'amis qui travaillent, qui sont passés dans cette émission. Toi, tu viens de passer le code et tu l'as raté de peu, de combien dis-nous?
J'ai raté de 2 points.
2 points.
C'est pas beaucoup, hein, c'est rageant. Beaucoup, hein.
C'est rageant, ça, de le rater de 2 points. Hein. C'est combien maintenant? Il faut avoir 3 fautes maximum?
5 fautes, donc c'est 35. Donc voilà, il était à 2 points.
Aïe, aïe, aïe. Et tu sais quelles erreurs tu as commises? Ou pas? Non, il n'y a pas de...
Bah, c'est que des fois, quand je réponds, je fais des questions à moitié justes.
Ah, oui.
Voilà, donc c'est, voilà, sur les questions, par exemple, à choix multiple, donc réponse A ou B, après C ou D, s'il a répondu la moitié, il n'y a pas de demi-point, donc c'est réponse complète ou c'est 0 ou 1. Donc
d'accord.
Là, voilà, donc des fois, ça va se jouer, voilà, peut-être à 2 questions à choix multiple, et voilà.
On parlait de l'assiduité tout à l'heure, ça te décourage pas, hein, de l'avoir loupé de 2 points?
Non.
Non, c'est un boost de te dire, c'est oui. Que 2 points, je vais...
Non, et je pense que je m'étais mis un coup de stress.
Ah, et oui. Et oui, c'est compliqué.
Le stress des examens.
Voilà, c'était peut-être aussi le premier passage et ça a peut-être aussi joué. Donc la prochaine fois, il sera mieux armé. Il est assidu, sérieux, c'est un bosseur.
Ouais, je serais moins stressé, quoi.
Ouais, en plus, la première fois que tu l'as passé, tu le loupes que de 2 points.
Et c'est ça.
C'est encourageant.
Ça. Ah ben, c'est encourageant, oui, c'est sûr. Même question qu'à Aurélie tout à l'heure. La voiture, toi, tu en aurais besoin pour quoi? Pour quel type de déplacement?
Bah, c'est que depuis... Je suis dans un club.
D'accord.
Un club de quoi?
Tu peux nous dire.
Le tennis de table.
Ah, yes.
Sauf que... ils sont un peu obligés de me faire le taxi, quoi. Donc...
Donc, en fait, t'as envie d'autonomie, quoi.
Exactement. Mm. C'est plus besoin d'autonomie qu'autre chose, quoi.
Ok.
Il est où ton club, pardon? Il est où ton club de tennis de table?
Bah, c'est vers... sur Marvejol.
Sur Marvejol, d'accord.
Vous voyez où est la salle des fêtes.
D'accord, mais en tout cas, ça te permettrait de te déplacer pour les compétitions,
exactement.
Pour les matchs et tout ça.
Exactement.
D'accord, donc toi, c'est essentiellement pour ça.
Exactement.
C'est ce qui te motive.
C'est ça. Et puis surtout, pour aller rejoindre mes parents, quoi.
D'accord.
Parce qu'ils sont pas vraiment à côté, quoi.
Ils sont où? Tu peux le dire?
Ils sont dans l'Allier.
D'accord, c'est pas très loin non plus, donc ça serait un bon compromis en fait.
Bah, elles sont quand même à 300 bornes.
Ouais, 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 ça serait chouette, ouais. D'accord, oui. Donc tu pourrais aller voir tes parents seuls aussi.
C'est ça.
Comment tu y vas pour l'instant?
Bah, je prends le car jusqu'à Clermont, et de Clermont, je prends le train.
D'accord.
Jusqu'à Moulins.
Et voilà, quand on parlait tout à l'heure d'infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées, c'est parfois difficile, hein, y a des correspondances. C'est vrai que ça serait plus facile, effectivement. Tu prends la voiture et tu arrives du point A au point B.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'on est très mal desservi en Lozère, mais y compris vis-à-vis de l'extérieur du département. Et c'est compliqué. Donc toi, ça serait pour tout, ouais, ton environnement familial, tes loisirs.
C'est ça. Bon, en voiture, il y a quand même 3 heures de route. Hein.
Oui.
Bon, tu les feras peut-être pas dès que tu auras ton permis, mais après, tu t'en sens les capacités.
Oui, je sais qu'il faut s'arrêter toutes les 2 heures.
Ah, voilà. Alors, ça, Wesley, ça a été celui qui m'a vraiment remis tout à plat tout à l'heure sur le trajet.
Et t'as commencé, du coup, les cours de conduite en même temps ou on attend d'avoir le code pour faire...
Je sais que j'ai commencé une évaluation juste avant.
D'accord.
Avant de commencer le code, parce que je sais que... Il va parce que quand j'aurai commencé les leçons de conduite, il va falloir qu'il m'inverse les pédales. Parce que je conduis beaucoup plus du pied gauche que du pied droit.
Alors, on peut parler de ta petite problématique Voilà. Donc, tu as une hémiplégie du côté droit.
C'est ça.
Hein, voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. D'où la nécessité d'un véhicule adapté. Tu voulais dire quelque chose?
Voilà, donc oui. Donc, du ce fait, quand on parlait de la faisabilité du projet, donc il a eu une expertise avec Christophe Manouvrier, on peut le citer quand même.
Le moniteur de l'auto-école adapté.
Voilà, lui rendre hommage pour son travail. Donc il a ce véhicule adapté, donc il a fait l'estimation. Et à l'issue de son permis, quand il sera validé, le médecin référent, donc de la préfecture, donnera une habilitation de conduite à, en rapport avec son handicap. Et donc, ça sera noté, mais ce n'est pas un problème. Hein. Mais donc, il faudra qu'il conduise avec le véhicule adapté en fonction de son petit handicap. Donc, voilà. Et donc, on a à Montrodat, l'auto-école adaptée de Montrodat dispose de ce véhicule pour lui permettre de conduire.
D'accord. Oui, parce que on en parlait tout à l'heure des questions financières. De toute façon, acheter un véhicule pour tout type de personnes, c'est compliqué de nos jours. Vous le calculez, ça, par rapport à vos ressources, l'achat d'un véhicule, est-ce que c'est possible? Parce que j'imagine que c'est peut-être un peu plus cher d'acheter un véhicule adapté où on inverse les pédales ou autre.
Déjà, je me renseigne.
Voilà, tu commences déjà la démarche de
transfert. Mais j'ai pas encore déterminé le budget.
Il n'y a pas d'aide pour ça, Anne, étatique
Alors, il y a des aides. Alors après, c'est vraiment au cas par cas. Donc là, ça serait difficile d'en parler, mais il y a des aides de la GFIP. Il y a diverses aides. Mais bon, pour l'achat des véhicules, ça reste toujours quand même des investissements, des investissements personnels. Assez important.
Et voilà, j'allais dire peut-être la MDPH.
Peut-être.
C'est-à-dire que le dossier de la GFIP va être constitué avec les recommandations de la MDPH, mais quand même, c'est au cas par cas, comme le disait Anne, et la GFIP va pouvoir donner une subvention dans le cas où c'est pour maintenir un emploi ou accéder à un emploi. Voilà. Donc là, mais bon, il faut constituer le dossier, et ça passe en commission, et voilà. Mais il y a tout à fait des aides sont possibles.
Hashtag Ludovic Terrol, Anne Clémence.
Oui, moi je voulais juste parler du coup de l'adaptation des véhicules Marc. Donc oui. Ça, c'est des choses qui se font régulièrement.
Oui, tout à fait. Et bon, malheureusement, mon collègue donc, n'est pas là. Mon collègue serait plus à même à répondre
Christophe
à ça.
Qui a l'autre école exemple, à la 2LFS.
Voilà, par exemple, nous, pour notre véhicule, c'est l'ordre de 2500 à... entre 2500 et 4000 euros, les adaptations, là, pour son véhicule.
Et donc, Wesley, toi, l'adaptation, ça portera sur quoi? Tu commençais à en parler tout à l'heure.
Ça change rien que pour la boule, je me suis renseigné. C'est...
Alors, la boule, quand tu parles de boule, c'est une boule au niveau du volant qui est incrustée sur le volant pour te permettre de mieux...
Elle ne fait pas que tourner, c'est entre où il y a les clignotants et tout dessus, quoi.
D'accord.
Je me suis renseigné, c'est entre 1500 et 2000 euros.
D'accord.
Rien que pour la boule.
Donc là, il te faudra une adaptation, cette boule, au niveau du volant. Et puis, il te faudra une autre adaptation encore, hein ?
Oui, l'inversement des pédales.
Alors, c'est-à-dire ?
Au vu qu'il y a... Là, actuellement, sur les voitures, il y a ce qui est au niveau... Là où il y a le frein, ça sera l'accélérateur. Et là où il y a l'accélérateur, ça sera le frein.
D'accord. Donc, il y a une inversion des pédales aussi. Et là... Au niveau de l'auto-école adaptée de la 2LFS, ils ont ce véhicule pouvoir...
Le véhicule est modulable, donc il adapte en fonction de
Donc il va pouvoir de la personne. Prendre ses leçons sur un véhicule...
À l'issue du permis, donc, qui va passer d'ailleurs prochainement, je ne doute pas qu'il l'ait, le processus va suivre au niveau de la conduite sans problème.
Et donc par contre, oui, on n'a pas insisté tout à l'heure, mais du coup, il finit le code et puis il attaque les leçons. Hein.
Oui.
S'il a de la place. Voilà.
Alors après, au niveau aide aussi, c'est vrai, on en parle, enfin ça commence, on n'a pas fait trop de dossiers avec ça, mais les résidents, au niveau de la conduite, peuvent bénéficier de leur CPF, le compte personnel de formation.
D'accord.
Et donc ça, on va l'activer au niveau de la conduite, parce que si on active le CPF immédiatement en début, si le résident malheureusement ne poursuit pas à cause de la théorie, il va avoir engagé tout son fonds. C'est-à-dire que l'engagement de la subvention du CPF va prendre la théorie, la partie théorique et la partie de conduite. Donc il va perdre. Donc une fois qu'il a réussi son code, on va consacrer la somme pour les heures de conduite qui peuvent varier suivant le potentiel du résident. Voilà.
Aurélie nous disait que la notion de groupe, ça lui posait problème. Toi, ça va pas au niveau des cours de...
Non, ça va. Ça n'a aucune importance.
D'accord. Toi, ça ne dérange pas. Tu restes concentré sur l'objectif.
Oui.
D'accord.
Je vais juste rajouter une chose. C'est que pour moi, ça a été beaucoup plus compliqué pour avoir l'accord parce que c'était surtout avec mon épilepsie.
D'accord.
Tu fais de l'épilepsie. D'accord.
Épilepsie qui peut être un facteur... qui peut empêcher la conduite, parce qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie, voilà. Ça peut être une
un facteur bloquant.
Un facteur bloquant et même d'incapacité.
Ah ouais, d'accord. Bon, mais en tout cas, dans ton cas, tout est OK. Tu as passé ton... T'as ton certificat, tu peux passer le
mais
permis.
Mais c'était
le
pas gagné au début.
D'accord.
Et donc ça, c'était le rendez-vous avec les médecins de la préfecture. Voilà, c'est ça. Ça s'est bien passé, d'ailleurs, ce rendez-vous.
Oui.
Ouais. Ça a duré combien de temps C'était sur une journée ou t'as dû revenir Comment ça se passe concrètement?
Bah, au début, c'était pas... J'ai pas eu l'accord de suite, quoi. J'ai dû, après... mon neurologue m'a beaucoup soutenu.
D'accord. Ouais, ça, il faut le dire aussi, parce que c'est vraiment un parcours, ça a l'air d'être un parcours
c'est
un peu du combattant.
C'est le départ, en fait. Hein.
Alors,
le départ.
Quand il y a un litige, ça m'est arrivé d'ailleurs pour une résidente qui a à l'heure actuelle son permis. Et d'ailleurs, on n'avait pas pris en compte vraiment ce paramètre-là. Elle était en cursus du code. Elle l'a obtenu, puis après, elle nous a dit, mais là, j'ai un problème, parce que la visite n'avait pas été... Elle a eu son code assez vite, quoi. La visite, on n'avait pas encore le résultat. Et donc là, pour une histoire de... Pour un problème de diabète, quoi, le premier avis a été négatif. Et donc là, je me suis rapproché du DRS et l'équipe soignante, donc qui ont apporté son livret médical. Et en fait, donc pareil, comme l'épilepsie, il y a plusieurs degrés de... Plusieurs niveaux, si vous voulez. Voilà. Plusieurs catégories, voilà. Enfin, je ne suis pas spécialiste.
Oui, c'est catégorie, oui.
Voilà. Et du coup, l'avis médical a été revu. Après, on l'a expliqué un petit peu mieux. On l'a accompagnée, du coup. Donc, elle était soutenue par l'équipe soignante. Et donc, elle a pu défendre
son dossier.
Et ça a été accepté.
Parce que là, c'est quoi? C'est par rapport aux crises d'hypoglycémie qu'on peut faire lors de
voilà,
conduite.
Oui. Le diabète, il peut y avoir une perte de connaissance, etc. Donc voilà,
okay,
c'est vraiment pas compatible avec la conduite, quoi. Et l'épilepsie aussi, ça peut engendrer, suivant le niveau.
Comment dire, j'ai eu une épilepsie assez sévère, quoi, que j'ai toujours.
D'accord. Et donc là, on a considéré que tu étais stabilisé et ça doit passer.
Ouais. Pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, on demande ça, les diabètes, les...
Ah oui, oui, absolument.
On demande aussi, c'était pour savoir comment je me rappelle.
Oui, parce que voilà, maintenant, c'est comme les allergies, ça peut évoluer, on peut ne pas être diabétique, et après, pour une mauvaise alimentation, etc.
Okay.
Quoi.
D'accord. Ouais,
le diabète aussi, donc, peut engendrer une amputation, etc. Donc là,
oui,
pareil.
Bien sûr.
Donc là, si on vous ampute d'un pied, vous êtes obligé de repasser une visite de régulation. Enfin, le terme exact, je ne l'ai pas, quoi. Et pour faire un aménagement après de conduite. Donc là, on ne vous supprime pas le permis, mais vous êtes obligé de repasser un complément de formation pour prouver que vous êtes apte à conduire en fonction de votre handicap.
Je crois qu'en plus, ça se fait avec un inspecteur.
Ah oui, absolument.
Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors Fred, toi tu as ton permis, hein?
Oui, du premier coup, code de premier coup, permis premier coup.
Ah bah dis donc, chapeau.
Pas
bon
de
élève.
Difficulté pour toi?
Non, ça a été.
D'accord. Tu l'as eu obtenu quand ton permis, du coup? Tu t'en souviens?
Le 11/03/2020.
Alors il l'a sous les yeux, son permis, hein, pour dire à tout le monde, il l'a sous les yeux.
C'est
11 mars 2020, donc tu as eu ton permis, Frédéric.
Ouais.
Ça t'a changé la vie d'avoir une voiture?
Oui, question de déplacement pour aller en famille, pour aller chez mes parents et chez ma soeur.
Donc c'est ce qui t'a motivé, toi, aussi?
Ouais. Et aller à la pêche.
Donc pour les loisirs?
Ouais, pour les loisirs, ouais.
Tu te souviens de l'époque où t'avais pas de voiture, où tu t'as oublié, du coup? Tu te souviens la galère que c'était de pas pouvoir te déplacer comme tu le voulais?
Ouais, surtout avec le froid et tout, un scooter, c'est pas le top. L'été, ça va, mais pas l'hiver.
Et surtout pour aller un petit peu loin, toi, parce que du coup, tes parents sont à Nasbinal, je crois.
Oui.
Ben comme ça, tu peux t'arrêter pour pêcher sur l'Aubrac.
Ouais, voilà, oui.
Au passage.
Tu as quoi comme voiture?
Une C3.
Et toi, elle n'est pas aménagée?
Non.
Tu n'as pas besoin d'aménagement?
Non.
Ouais, c'est une C3 tout à fait classique, normale. Tu as eu donc ton code du premier coup, ton permis du premier coup, tu as une voiture. Donc maintenant, c'est la vie est belle, quoi.
Oui.
Moi, je l'ai passé il y a une paire d'années. Et j'avoue qu'il y a certains panneaux. Des fois, je les regarde et je me demande qu'est-ce que ça signifie. Toi, tu n'as pas de problème, comme dirait Aurélie, avec les balises, avec les panneaux?
Un peu, mais après...
Ça ne te dérange, ça gêne pas dans la conduite?
Non, parce qu'on reste pas mal sur la Lozère. Alors, après, j'irai dans les grandes villes comme Montpellier, Toulouse ou Paris. Peut-être que là... J'aurais des difficultés avec les feux de piétons ici. Ça, ouais, peut-être j'aurais un peu plus de difficultés.
Mais bon, toi, tu restes dans le coin, donc finalement, tu n'en as pas besoin. C'est vraiment pour ici. Ça s'est toujours bien passé, la conduite? Tu n'as pas eu d'accident, d'accrochage?
Si, un.
Un? Ok. Ouais. Pas trop grave?
Non, ça, non, comme matériel, mais après, corps humain, non.
Non, bon, parfait.
Alors, moi, je voudrais juste revenir effectivement sur, sur la mobilité plus globalement. Donc là, on a insisté bon, sur le code, le permis de la route. Tu l'as dit dans ton introduction, Ludovic, effectivement, la voiture sur nos territoires reste quand même un moyen assez privilégié pour pouvoir se déplacer du fait voilà, des infrastructures qui ne sont pas toujours adaptées, des transports publics pas toujours existants comme ça pourrait être sur des agglomérations urbaines et tout ça. Mais pour les personnes qui n'ont pas la capacité, qui ne veulent pas, qui ne se sentent pas, le Claude-Uni met en place d'autres choses pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer.
Voilà, donc moi sur le volet mobilité, bien sûr, il y a ce gros volet de permis de conduire, de prévention routière, etc. Et après, donc sur le bassin de Marvejols, s'est mis en place le système de Covoit Go. Donc là, pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, je les initie à ça. Donc en fait, le Covoit Go, c'est une borne où on appuie, on a des destinations. Donc ça reste assez limité sur le bassin de Marvejols. Donc c'est l'aire de covoiturage à Entrenas, Montroda, donc là où on a le centre de Bouledoire. Donc c'est pratique. Donc Montroda, Marvejols, Marvejols, Montroda. Et Marvejols, Chirac, le Monastier. En fait, Bourg-sur-Colagne, c'est les deux communes qui se sont regroupées. Et donc là, j'ai initié un certain nombre de résidents, donc Bouledoire, Marvejols, pour aller faire leurs courses ordinaires, petites sorties.
Alors,
au cinéma.
Bouledoire, où il y a un ESAT et un foyer d'hébergement.
Voilà, c'est ça. Et également, au départ de la Colagne, on a des résidents qui suivent les équipes de sport local. Et donc, par exemple, j'ai Nicolas, là, dernièrement, à qui j'ai appris à faire ce Covoit Go, qui se rend à Chirac ou au Monastier pour voir l'équipe jouer. Donc, il est autonome, il appuie sur sa borne, la destination, on le prend et il revient. Donc là-dessus, on travaille derrière ça, l'élocution, la présentation, etc. Donc, ça leur donne un rayon d'action un peu plus supérieur, quoi. Voilà. Après, moi, je suis en charge aussi de faire les réservations de titres de transport, d'organiser des blablacars. Voilà. Moi, mon rôle, c'est de trouver des solutions, justement, pour notre cœur de métier, c'est s'adapter en permanence. Donc, moi, j'essaye de trouver des solutions pour essayer de se rendre en famille, etc., en vacances, enfin, trouver des solutions. Quoi. Voilà.
Pour qu'il y ait une mobilité, de toute façon.
Voilà, pour augmenter leur rayon d'action, si on veut, leur mobilité. Voilà, leur
et rapproche. Après, ont été mis en place également d'autres outils. Alors, ont été mis en place, enfin, d'autres moyens, des outils, c'est pas le terme, des navettes. Alors, le pôle travail et habitat inclusif a mis en place des navettes qui circulent entre les ESAT et les foyers d'hébergement pour pouvoir, effectivement, que les résidents, les travailleurs puissent se rendre sur leur lieu de travail et sur leur lieu d'hébergement. Voilà. Donc, il y a ce système de navettes et dont les chauffeurs sont parfois des travailleurs en situation de handicap.
Voilà, donc retombée directe de ce projet, on a 2-3 chauffeurs qui font ces navettes. Donc ces navettes sont organisées puisqu'on a aussi des personnes qui ont un travail adapté, des mi-temps, etc. Des résidents qui ne travaillent pas le matin mais l'après-midi, des résidents qui travaillent l'après-midi, pas le matin. Donc il y a ce système de navettes, donc des chauffeurs, des conducteurs qu'on a formés, qui sont passés par notre cursus et qui maintenant donc qui travaillent là. On a aussi récemment le service de vague-mestre. Donc il y a un chauffeur qui a été formé par nous.
Alors c'est quoi? Parce que là, il faut le expliquer à l'auditeur,
voilà,
ce que c'est le service de vague-mestre.
Les différents courriers qui sont portés entre la direction générale, les différents ESAT, le pôle travail.
C'est un service, donc, le service vague-mestre.
C'est un peu le facteur.
C'est entre guillemets le facteur du Claude-Uni. C'est-à-dire que ce sont des résidents.
Voilà, qui a un véhicule de service.
Qui font le rôle un petit peu effectivement de facteurs, c'est qu'ils vont amener les courriers, les reprendre d'un foyer à la direction générale et tout ça. Et là, effectivement, ce sont aussi...
Donc là, c'est une retombée directe.
De travailleurs.
Les navettes, comme disait Anne, voilà.
Voilà. Ont été mis en place également des navettes en soirée, hors temps de travail, pour que les résidents puissent aussi se rendre à Marvejols. Voilà, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai notamment quand ils sont un petit peu éloignés, style le foyer de Bouledoire, voilà, par exemple, enfin éloigné, tout est relatif, mais un petit peu à l'extérieur de Marvejols, pour pouvoir se rendre en soirée sur Marvejols, pour faire 2-3 courses, aller boire un coup. Donc il y a ce type de navette aussi qui a été mise en place. Et puis, il ne faut pas aussi oublier la navette qui a été mise en place pour les externes, c'est qu'il y a une navette qui fait tous les jours membre de Marvejols. Voilà.
D'accord.
Parce que tous les travailleurs des ZAT ne sont pas forcément résidents de foyer. Certains habitent toujours dans leur famille ou, un
ou à l'extérieur.
Ou à l'extérieur, quoi que ce soit. Et donc, il y a des navettes tous les jours qui font Mende-Marvejols pour qu'ils puissent venir à les ZAT sur Marvejols. Donc, il y a un certain nombre de choses, de projets qui se développent vraiment pour favoriser au maximum cette mobilité.
Les déplacements et également aussi le système du trajet à 2 euros mis en place par le Conseil Général. Donc là aussi, j'interviens là-dessus pour leur montrer les différents horaires. Le Conseil Régional, pardon. Oui. Et donc d'utiliser ces moyens qui sont peu onéreux, donc 2 euros, et d'utiliser le moyen. Donc là, mon rôle, c'est de les rassurer. Je les accompagne, je fais le trajet une fois ou deux avec eux. Et une fois qu'ils sont lancés, rassurés, ben, voilà, comme le convoi de go, fois que c'est lancé, c'est parti, ça roule.
Faut avoir des idées pour combler les manques.
Voilà. Exactement, voilà, il faut savoir.
Il faut être réactif en permanence.
Voilà, et imaginatif pour pallier toutes ces problématiques-là. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, entre effectivement, finalement, l'accompagnement au code et au permis, l'accompagnement aux outils qui existent déjà, ce qui a été développé par la Comcom du Gévaudan dans le convoi de go. Tu les accompagnes aussi effectivement pour les bus LIO du conseil régional. Plus les navettes en interne développées par le Clos du Nid, la navette qui fait Mende-Marvejols tous les jours, les navettes inter-établissement, les navettes pour se rendre au loisir le soir. Voilà, beaucoup de choses sont en train de se développer pour faciliter au maximum, enfin pour aider à cette mobilité.
Après, il y a un autre aspect aussi qui est lié à la mobilité, c'est aussi donc dans mon volet d'animateur, je m'occupe aussi d'organiser du bénévolat. Donc, par exemple, notamment au sport. Donc, souvent, le sport ordinaire aide le sport adapté. Et là, c'est pour prouver que les résidents du sport adapté peuvent tendre la main au sport ordinaire. Donc, dans le cadre du bénévolat, je pense aux scooters, par exemple. Chaque année, on est partenaire de la Lozérienne, qui est une course cycliste sur route. Donc là, les résidents qui ont des scooters, ils y vont en binôme. Et là, donc on a la sécurité de la course en main. On est vraiment maintenant un partenaire, on va dire, presque décisif. Donc ils se rendent sur les différents points
de sécurité
sur l'itinéraire de la course, en binôme, en scooter. Donc des fois, la course, elle fait une boucle, ils passent. Comme ils sont mobiles, dès que la course est passée, ils peuvent se rendre à un autre point de contrôle, si vous voulez.
D'accord.
Et donc ça les valorise et ils font leur métier vraiment de façon
rigoureuse. Ils remplissent leur mission avec...
Voilà, avec un sérieux. La preuve, c'est que chaque année, on nous redemande. Et bien, on peut dire que ça peut être une dizaine de résidents. Donc maintenant, ceux qui ont une voiture aussi se déplacent, prennent leur petite glacière en attendant, puisqu'après, il y a toujours un certain temps d'attente, quoi. Ils ont leur petite logistique, leur fauteuil éventuellement, et voilà. Donc, et ça, c'est très valorisant, et voilà, c'est aussi un moyen de s'inclure, un moyen d'inclusion et d'insertion. Et puis, on est vraiment des partenaires à part entière. Voilà.
C'est en mai,
la Lozérienne, voilà. Ouais. Bon, alors après, il y a maintenant le bénévolat, et du fait d'avoir une voiture aussi, certains y participent. Je pense à Patrick, qui fait la Lozérienne cycliste avec moi. Après, moi, je ne suis pas toujours disponible aussi. Autrement, on pourrait y être tous les jours. Et je sais que Patrick, maintenant, donc, il avait un scooter, il a acquis une petite voiturette avec sa compagne. Ils vont aussi donner un coup de main, parce que l'organisateur d'événements sportifs là, fait aussi la Lozérienne VTT. Et donc, ils vont pouvoir y participer cette année de façon autonome avec leur véhicule. Et bien, ça, c'est formidable.
Alors justement, pour en revenir, tu parles de plusieurs moyens de locomotion. Tu as parlé des scooters, des voiturettes. Tu as quelques chiffres là à nous donner pour avoir un ordre d'idée du nombre de résidents qui ont leur permis.
Voilà, en sachant que j'allais faire cette petite émission, je me suis posé un peu la question, parce qu'en fait, on a un peu la tête dans le guidon, et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, parce que ça évolue. Et donc, pour avoir fait un petit bilan, donc en voiture permis B, à l'heure actuelle, sur l'ensemble des foyers, on a 29 véhicules, voiture ordinaire. D'accord. Après, en scooter moto, on a 25 deux roues. Et les voiturettes, donc ça, maintenant, c'est aussi un mode chez les jeunes ordinaires. On est à l'abri, on est couvert, on est au chaud. Et là, on a 9 voiturettes. Donc, vous voyez, ça fait un parc à peu près de 63 véhicules.
Ah, c'est quand même. Hein.
Donc, vous voyez, ça, c'est conséquent. Le projet a pris une dimension, c'est accéléré, quoi.
Que tu suis combien de personnes à peu près, toi ?
Alors là, sur le cursus 2024, j'ai à peu près 36 dossiers actuellement.
Ah ouais, 36 dossiers. Ouais,
donc voilà,
ah,
ça occupe pas mal. Voilà.
Et le dossier...
en voiture, voiturette et...
Oui.
Et une fois qu'ils attaquent, quand ils rentrent dans le processus, ça dure combien de temps en moyenne ?
Alors, pour le code, bon, on va dire en moyenne, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, pour être prêt. Après, ça peut être plus rapide, ça peut être aussi un peu plus long, quoi.
Ouais, ouais,
voilà.
Tout dépend des
et
personnes.
Et aussi, cet aspect aussi, c'est intéressant pour nous, l'aspect de ce projet de code de la route. Ça nous amène des résidents, parce que bon, on accueille des résidents de la France entière hein, sur nos établissements au niveau du pôle. Et donc ça peut être des résidents qui vont venir de Paris, parce que aussi, bon, ce projet a lieu, puisqu'on est sur une ville moyenne, on va dire à taille humaine. Comme le disait Fred, ça reste une circulation bien qu'au fil des années, elle s'accentue, elle se renforce. Donc ce projet a lieu parce qu'on est sur voilà, un bourg moyen, on va dire, hein, au niveau de Marbejols. Et donc on a des résidents qui vont venir à travailler en ESAT, également dans leur projet de passer le code. Donc ils vont être là 2-3 ans. En fait, leur objectif, ça va être professionnel, mais aussi d'obtenir leur permis et après de revenir ou de repartir sur leur destination.
D'accord,
donc
ça fait partie, selon toi, des axes différenciants que peut proposer le Clos du Nid
voilà.
et nos associations, la 2LFS.
Ça peut être aussi un appel au travail, quoi. Donc c'est un élément, on a une carte là, puisque je ne sais pas exactement, mais on n'a pas beaucoup de foyers qui proposent ce genre de prestations. Voilà.
Mais la proximité avec l'auto-école adaptée, justement.
Voilà, un partenaire incontournable, c'est sûr.
Tout à fait. Alors, justement, tiens, pour parler de Christian Manouvrier, de la 2LFS et de cette école, auto-école adaptée, il y a à l'heure actuelle un partenariat qui a été monté avec le conseil départemental sur la mobilité en Lozère des personnes en situation de vulnérabilité. Donc, le conseil départemental, en fait, amène des financements pour des personnes donc en situation éloignée de l'emploi, vulnérables, des différentes associations de la Lozère, que ce soit donc bon certes le non il n'y a pas le Clos du Nid justement, ces associations plus à vocation sociale de type mission locale, jardin de Cocagne, donc où des stages sont réalisés, des stages d'une quinzaine de jours sont réalisés à Montrodat, donc sur le site du complexe
euro-méditerranéen
où Christophe Manouvrier et l'auto-école adaptée du coup a accompagne ces personnes jusque voilà dans l'optation de leur code de la route. Donc ça, c'est un partenariat qui a été monté avec le conseil départemental. Le premier stage a eu lieu fin 2023 et le deuxième stage vient de se terminer là. Donc on en est à deux stages de 15 jours en partenariat avec le conseil départemental et pour les associations à vocation sociale du département. Voilà. Donc ça c'est chouette. C'est Madame Combe au niveau du conseil départemental qui coordonne tout ça.
Voilà, ouais, donc effectivement, Christophe est bien occupé, quoi. Après aussi, bon, moi,
donc,
je parle...
Quoi, c'est un vrai sujet sur la Lozère, en fait.
Voilà, ouais. C'est sûr que le permis, c'est un vecteur social. Comme Ludovic le disait aussi, si on n'a pas le permis au milieu rural, c'est compliqué, quoi. Et donc aussi, Christophe intervient, donc ça, c'est plutôt sur nous, le volet éducatif loisir en foyer. Et il fait aussi... mais là, je lui laisserai lui en parler... qui lui en parle lui-même, quoi. Il fait aussi donc, tout ce qui est au niveau du travail, et ça rejoint Frédéric aussi, les CACES, les permis, comment dire, les transpalettes, les gerbeurs, etc.
Ah oui.
Donc il y a aussi l'aspect professionnel.
Ok.
Il fait les formations, quoi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Donc tout ça...
Autre projet sur lequel qu'on peut également évoquer, même si c'est du teasing parce qu'on est en train d'y travailler, le Clos du Nid donc gère une entreprise adaptée. Et l'entreprise adaptée a répondu il y a quelque temps à un appel à projet de la MSA et de l'État. Donc appel à projet au cours duquel l'entreprise adaptée a été retenue pour organiser un transport en Lozère, donc sur l'ensemble du département de la Lozère, pour des personnes, pour remettre les personnes en fait dans l'emploi, en fait. Donc des personnes qui sont en zone éloignée, rurale, qui ont en plus eu des problématiques d'éloignement de l'emploi, liées à diverses raisons, que ce soit des problèmes de santé ou sociaux ou autres. Donc l'idée, il y a de créer, alors c'est en cours de réflexion, donc rien n'est encore construit, établi. On est vraiment au stade du projet, mais voilà, d'établir des moyens de transport, de réfléchir à des moyens de transport pour permettre à ces personnes très éloignées géographiquement et éloignées de l'emploi de pouvoir se remettre dans l'emploi. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de remplacer des systèmes existants, hein, c'est justement de mettre en place des choses là où rien n'existe. D'accord. Et ça, il faut vraiment, vraiment insister.
Et plus on peut mailler le territoire, mieux ça sera, hein, c'est sûr.
Ouais, tout à fait, voilà.
Ouais, apporter des solutions complémentaires, quoi.
Bien sûr, ouais. Fred, tu fais quoi comme travail ? Je t'ai pas demandé.
Je travaille au Pôle Bois.
Au Pôle Bois aussi ?
Oui.
D'accord.
Bon, là, au triage de planches, parce que je me suis bloqué l'épaule en travaillant. Normalement, je suis aux palettes, emballage lourd. Vu que je me suis fait mal à l'épaule, avec le docteur Aomo, plus la chef de service, on m'a mis un poste un peu, qui a moins à forcer.
Okay.
Bon, super. Bon, en tout cas, moi, bon, ce sur quoi je voulais insister aussi, c'est que, bon, en parlant mobilité, on parle aussi autodétermination, hein, systématiquement, enfin, de façon assez logique. On en a parlé au cours des deux dernières émissions, l'autodétermination dont on parle de plus en plus dans le médico-social, c'est redonner le pouvoir d'agir aux personnes en situation de handicap, qu'elles soient décisionnaires, de leur parcours, de leur trajectoire, et évidemment la mobilité fait partie intégrante de cette notion d'autodétermination, hein. Ça renforce vraiment le pouvoir d'agir des personnes en situation de handicap, en les rendant moins dépendantes, comme ils ont parlé tout à l'heure, de l'équipe éducative, de personnes extérieures. Donc ça, on est complètement dans le travail du pouvoir d'agir en travaillant cette mobilité.
Voilà. Ça leur permet d'être d'être mieux dans leur vie, dans leur cadre de vie aussi, c'est un peu aussi mon rôle. Et donc du fait, quand on est bien dans sa vie, on se déplace, on fait des loisirs, on est d'autant mieux après mieux au travail. Donc c'est lié, et tout ça c'est un tout, et c'est hyper important.
De l'autodétermination sous condition.
Bien sûr.
Et voilà, et on pense toujours à la personne qui, pour lui, c'est son plaisir pouvoir aller faire du sport ou autre. Mais c'est vrai qu'on a, tu soulevais la question de l'aide du bénévolat associatif, qui est extrêmement important. C'est vrai que quand on pense à Jordan qui fait des kilomètres pour aller entraîner des enfants de 13 ans, on sait les difficultés qu'ont les associations à avoir des bénévoles. Et c'est aussi ça sert à la vie associative d'un département comme la Lozère, qui est très très importante.
Exactement, voilà. Ça sert le territoire, en fait.
Voilà. Ça sert encore le territoire.
Une retombée directe aussi, peut-être elle ne l'a pas dit Aurélie, mais ouais, par exemple sur ce week-end, ils partent ensemble à la mer, c'est grâce à leur voiture, donc voilà, c'est formidable.
Oui, on part à la mer au Gros-du-Roi ce week-end.
Eh bien, ça c'est une bonne idée. En plus, je crois qu'il doit pleuvoir par ici, donc...
On va pour la fête des taureaux.
Ah, bon, bah, écoute, il y a quand même une semaine à tenir encore. On est lundi et tu penses déjà au week-end. Donc,
Et comme ça, sur la route, il pourra te faire réviser le code.
Voilà, hein, exactement. Dire,
c'est ça. Mais écoutez, merci à vous quatre d'être venus. C'était très instructif, très intéressant, comme toujours ces émissions. Le code, on le repasse quand de ton côté, tu le sais ou pas ?
Le 4 mars.
Le 4 mars.
C'est vendredi, ça ?
Non, c'est lundi.
Ou lundi, d'accord.
C'est le jour de la diffusion de cette émission.
Ah ben voilà. Donc, du coup...
voilà. Oui, ça va te porter chance. Ça.
Ah, c'est peut-être un signe, alors. Voilà.
C'est peut-être un signe, ouais.
Ouais, bah, ouais. Faut pas trop...
si, on croise tous les doigts. Donc lundi, en écoutant l'émission, on pense tous à Wesley. Alors. Okay.
Tout à fait, voilà.
Bon. D'accord. Merci à vous et Wesley, on croise les doigts ?
Oui.
Hein ? Allez, réponse dans la prochaine émission, on reviendra, tu nous le diras, tu le diras à Anne si tu l'as eu ou pas, et comme ça, on pourra l'annoncer dans la prochaine émission. Allez, merci à vous.
Merci, au revoir.